Chapitre 22. Je n'ai jamais aimé visiter des ruines. Je sais bien que je ne suis rien, mais les architectures hautaines des siècles passés me le rappellent avec trop de violence et de majesté. J'ai besoin, autant que les autres, d'un peu d'illusion pour durer. C'est un début juillet d'une constante chaleur. Je cherche l'ombre sous les arches du grand amphithéâtre de Pula, mais elle est rare. Et dans chaque recoin protégé, je trouve assis à même la terre quelques touristes exténués qui me regardent sans aucune bienveillance, prêts à disputer avec hargne et avec les armes qui sont les leurs, appareils photo à l'objectif démesuré, gourdes, bâtons de marche, iPhone, le territoire acquis. Elena va en plein soleil. On dirait qu'il est moins chaud pour elle. On dirait qu'il l'épargne et se contente de la dorer. Elle est heureuse d'être là, et je suis heureux qu'elle soit heureuse. Elle me dit les endroits où elle venait jouer enfant, les chèvres et les moutons qui y paissaient, entre les blocs de pierre, dans l'arène qui n'avait plus de forme et où l'herbe paraissait plus verte qu'ailleurs. Elena est légère, Elena est belle, Elena est jeune. J'égrène ces phrases comme les propositions d'un théorème, mais je n'aboutis à aucune conclusion. Je n'ai jamais été doué pour les mathématiques. Nous sommes ici depuis 4 jours. La ville n'est pas très grande. Elle n'est pas très belle non plus. Ou plutôt, elle n'est plus très belle. C'est une créature rafistolée, un organisme cousu de membres divers et qui s'articule comme ils peuvent. L'Antiquité gréco-romaine, l'Empire austro-hongrois, le communisme, l'anarchie ultralibérale, la terre des oliviers, la mer des plages sans charme et les chantiers navals. Elena m'entraîne dans les églises qui sont fraîches et de taille modeste. Je la découvre pieuse. Elle brûle des cierges, se signe, semble psalmodier des prières. Je la laisse faire. Regarde les peintures, le dallage, les murs aux enduits fissurés qui ressemblent à des relevés topographiques incomplets parcourus par des fleuves hésitants. Tu es croyante ? Elle me sourit et ne me répond pas. Elle prend mon bras, m'embrasse, toujours ce parfum d'orange. Je tombe en extase devant une pissotière. Je tente de faire partager ma joie à Elena. Tu te rends compte? Une vraie pissotière, où on peut encore pisser. Vous, les hommes, pas nous, les femmes. Gratuite, toujours ouverte. Il n'y en a plus aucune comme cela en France. Tant mieux. J'entre à l'intérieur de l'ovale de fer blanc festonné. Tout y est. L'odeur puissante que beaucoup, dont Elena, trouverait épouvantable, les graffitis obscènes, les mouches, le filet d'eau rouillé qui tente, sans y parvenir, d'entraîner les urines et les papiers vers un trou ouvert comme un œil de gros crapaud. Je pisse. Et tout en pissant, je peux regarder au dehors, car les visages sont à la hauteur d'une meurtrière pratiquée dans la structure. Elena s'est assise sur un banc, à une dizaine de mètres. « Je te vois. Moi aussi, je te vois. » Elle se détourne et regarde la mer, un bras de mer avec une île au loin. Des bateaux passent, de petits chalutiers, des hommes sur le pont s'interpellent tout en rangeant des filets. Je quitte la pissotière. Je rejoins Elena. Je venais avec mon père et ma mère sur ce banc. Moi, je ne restais pas sur le banc. L'été, je jouais sur la pelouse, il y avait d'autres enfants. L'hiver, ou quand il faisait mauvais, je restais dans les allées. Il y avait moins d'enfants. Mes parents ne quittaient pas le banc. Ma mère sortait une revue, mon père ses cigarettes. Il fumait en regardant la mer. Il ne se parlait pas. Mon père ne discutait pas avec les autres hommes qui le saluaient en passant. Il fumait et regardait la mer. Il semblait toujours un peu mélancolique quand nous venions ici. Et le soir, sa mélancolie se prolongeait. Il restait assis à sa place dans la cuisine. Il continuait à regarder devant lui, un peu au loin, comme si la mer était là, cachée dans les motifs de la tapisserie qui représentait des oiseaux multicolores et des singes. D'ordinaire, il était joyeux et chantait sans cesse des chansons ou sifflait. Mais la mer le rendait triste et pourtant nous allions souvent nous asseoir en face d'elle. Quand nous sommes partis de Pula pour venir habiter en France, il n'y avait plus la mer, mais il n'a jamais plus chanté ni sifflé. La tristesse l'a envahi. Elle est entrée en lui. Je pense qu'il avait laissé quantité de portes ouvertes. Il attendait qu'un mâle ou un autre entre et s'installe en lui. Ce fut la tristesse. Il en est mort, très vite. Il avait 38 ans et moi j'en avais 12. Ici, l'huile d'olive est d'un vert sauvage. Elle a un goût violent et une amertume que j'aime. Je trempe dans mon assiette des morceaux d'un pain qui ressemble à ces pains turcs que nous mangions à pleines dents, Florence et moi, durant nos premiers voyages. Florence. Florence vient de s'inviter soudain à notre table, dans ce petit restaurant près de la place principale de Pula, au plafond bas, au décor misérablement classique, fiasque de vin et filet de pêche suspendu au mur. Il a fallu que je morde dans du pain pour penser à elle. Je ne sais pas comment elle le prendrait, si elle en rirait ou si elle me giflerait. Mon corps a plus de mémoire que moi. Le goût du pain turc. Florence, Malatia, le vent brûlant au sommet d'une émeraude d'Agui, les abricotiers et notre jeunesse. « Vous me rapporterez du tabac ?» avait dit Eugène. Nous lui avions rapporté du tabac, acheté au poids dans le souk de Diyarbakir, qui avait pris place dans l'ancien caravansérail. Des hommes, assis par terre, vendaient un tabac blond et odorant qui formait de grandes pyramides posées devant eux sur des draps ouverts. Au dehors, dans le jour si lumineux que le ciel n'était plus ni bleu ni blanc, mais insupportablement métallique, la température excédait les 40 degrés. Les nuits, nous prenions toutes les 2 heures des douches froides et nous recouchions trempés, espérant garder la fraîcheur de l'eau autour de nous, sur notre peau nue. Nous déjeunions au matin d'oranges, de galettes et de thé. Il y a 3 semaines, j'ai dîné avec Florence avant son départ. C'est elle qui l'a voulu, ce dîner. Le départ aussi peut-être, mais le prétexte est une mutation de Luc, son mari. C'est étrange pour moi d'écrire cela à propos de Florence, son mari, et que ce ne soit plus moi. Luc occupe un poste important dans une multinationale qui traite du recyclage des déchets ménagers. Lorsqu'il y a quelques années, Florence m'avait annoncé son métier, cela m'avait fait rire. « Il s'occupe donc de moi ?» lui avais-je dit. Elle n'avait pas relevé. Elle avait haussé les épaules, elle avait saisi dans le seau le col de la bouteille de Sancerre et nous avait resservi. Florence se plaignait de ne jamais me voir. Je ne sais pas si elle voit davantage Luc, mais peut-être que cela l'arrange. Luc est nommé au Brésil, à Sao Paulo. J'avais tenté de me souvenir de Sao Paulo, où j'étais allé pour un festival il y a quelque temps. Je me suis rappelé l'arrivée en hélicoptère sur le toit de l'hôtel, le climat sur lequel je m'étais trompé, je n'avais pris que des vêtements d'été et il faisait 13 degrés, une attachée culturelle qui avait de jolis seins en forme de poire que je devinais sous son chemisier de crêpe beige, une ville immense, soucieuse et terne, un cigare, je crois bien que c'était un Magnum 46, fumé sur la terrasse d'un Starbucks en regardant passer les gens, les heures en voiture pour aller d'un point à un autre de la ville, un débat assez court après le film, une exposition des photographies de Sebastião Salgado qui se déroulait dans un lieu culturel implanté dans un complexe sportif où une piscine olympique avait été construite en sous-sol, si bien qu'en se rendant dans les salles de l'exposition, on marchait sur des dalles vitrées sous lesquelles, une dizaine de mètres plus bas, on voyait évoluer les nageurs, une autre exposition des dessins de Lucian Freud, sinueux et charnu, le visage rose d'une hôtesse de la TAM. Lors de mon retour, qui se souciait de façon un peu inquiétante de mon bien-être et de ma sécurité, ajustant ma ceinture et remontant ma couverture jusqu'à mon cou, comme si j'avais eu 5 ans. « C'est merveilleux, Sao Paulo, » m'étais-je contenté de répondre. Nous avions terminé notre dîner en échangeant des banalités comme le font, je présume, les hommes et les femmes qui se rencontrent pour la première fois, suite à une petite annonce, et qui se rendent compte dès les premiers échanges qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais qui décident tout de même de se montrer aimables et polis pendant tout le reste du repas. Ce n'est que lorsque j'ai refermé la porte du taxi dans lequel avait pris place Florence que je me suis dit que je la voyais peut-être pour la dernière fois de ma vie, que désormais un océan allait nous séparer, que des fuseaux horaires dérégleraient notre horloge jusque la commune, que je ne pourrais jamais plus me dire que nous respirions le même air, subissions la même ville, nous levions avec le même soleil. Je la connais assez, je la connais trop, pour savoir qu'à cet instant, elle avait les mêmes pensées que moi, et que comme moi, elle ne désirait peut-être qu'une chose, que quelqu'un, quelque part, arrête le balancier du temps, que j'ouvre de nouveau la portière du taxi, que je lui tende la main, qu'elle la prenne, sorte de la voiture et vienne se blottir dans mes bras pour n'en plus jamais partir. Mais les chauffeurs de taxi font leur métier, qui est de conduire des véhicules, de démarrer lorsque le client y est entré, sans se soucier de ses états d'âme, ni de ses hésitations. Ainsi vont nos vies, qui se décident parfois un peu trop vite et qui nous laissent nous débrouiller ensuite avec nos regrets et nos remords. Elena me regarde. « Tu rêves ?» me demande-t-elle. Je lui réponds non. Je me souviens simplement. Elle a la pudeur ou l'étourderie de ne pas me demander de quoi. Je crois que pour cela, je l'aime encore davantage. Au matin suivant, une bruine tiède tombe sur Pula. Elena, mystérieusement, veut à tout prix m'emmener quelque part. Je traîne un peu la jambe à la façon d'une vieille carne usée. Nous avons déjeuné tôt et quitté l'hôtel comme des comploteurs. C'est un dimanche. Les rues sont désertes. Nous remontons, main dans la main, une longue avenue bordée de casernements anciens, dans lesquels j'imagine des garnisons entières attendant d'embarquer sur des cuirassés rutilants mouillant dans le port. La première guerre bat son plein. Pula est le seul débouché sur la mer de tout l'empire austro-hongrois. Ni celui qui en est à la tête, ni tous ses sujets ne savent qu'ils vivent leurs derniers instants et que bientôt le monde s'effondrera, que bientôt leur territoire immense sera un gros quartier de viande saignant qu'on débitera à l'encan. Elena marche vite devant moi maintenant. Elle montre la voie, se retourne de temps à autre pour m'encourager d'un sourire. J'ai caressé ses seins à l'aube et posé mon visage entre ses cuisses pour respirer son odeur et sa vie. Je la sens ce matin différente et secrète. Au débouché de la longue avenue, dans laquelle nous n'avons croisé que 3 chiens galeux et plus tard, bien plus haut, un vieil homme coiffé d'une casquette de baseball et qui marmonnait dans sa barbe des récriminations incompréhensibles, nous entrons dans un quartier de villégiature abandonnée. Ce sont des maisons d'une taille inhumaine, faites pour une noblesse défunte qui venait là, un siècle plus tôt, à la saison des bains de mer, en menant dans ses malles des bataillons de domestiques, de nurses, de précepteurs, de cuisiniers, de gouvernantes anglaises et de chauffeurs. Toutes sont dans un état de décrépitude qui ne fait que souligner par défaut le faste qui a été le leur. Souvent, on devine qu'elles ont été, bien plus tard, vers le milieu du siècle, au temps où on a rêvé d'une vie collective, grossièrement découpée en appartements et négligée comme on punit les traîtres. Leurs toits se crèvent çà et là, des parpaings de ciment barrent certaines de leurs fenêtres, les vérandas s'effondrent, dans les serres et les jardins d'hiver achèvent de pourrir des épaves de voitures. Leurs jardins ne sont plus que des jungles laides, envahies par les genêts et les chats sauvages, ou des étendues tristes, rasées, boueuses, sur lesquelles la fine pluie croate tombe comme un bouillon, parmi les détritus, les seaux en plastique, les jouets cassés d'enfants qui ont grandi, sont devenus des adolescents oublieux, puis des adultes sans mémoire. Les crépis se délitent en plaques écailleuses. Les charpentes vomissent des eaux brunes. Des tuiles brisées au sol composent des cartes à jouer oubliées là, après des fins de partie sans vainqueur aucun. Mais parfois, une glycine, un camélia, un massif de vieux rhododendrons au ton de grenadier témoignent encore d'une élégance ancienne. Elena a pris de nouveau ma main et je la laisse me guider. Nous nous arrêtons à l'angle de deux rues, devant un muret de briques percé d'un portillon de fer qui donne sur une allée de pierres disjointes. Elle mène à la porte de service d'une des villas dont on n'aperçoit que le derrière bossu qui imite les résidences normandes de Torchy et de Colombage. Sans doute le prince qui en avait décidé la construction avait-il voulu se souvenir de ses étés à Trouville, de tout l'argent jeté sur les tapis verts des casinos de Deauville ou d'Yvetot, et des heures matinales passées après le jeu et le champagne entre des draps de soie, dans les bras d'une lionne un peu grasse qui lui glissait en français dans l'oreille des mots d'amour et des obscénités. Ce bout de France, à demi étranglé par la végétation de sureaux, de noisetiers pourpres, de chèvrefeuilles redevenues sauvages, et par la ramure d'un pin maritime qu'on n'a pas osé rabaisser, laisse couler de ses murs une peureuse tristesse. Mais contrairement aux autres maisons, celle-ci possède encore une âme, même s'il s'agit d'une âme blessée. Elena me désigne deux fenêtres du dernier étage. Leurs boiseries sont peintes en vert amande, et les rideaux brodés, étroits, qui ne couvrent pas la largeur de chaque ventail, tombent sur les vitres comme des linges d'église. Sur le volet de l'une d'elles, on a accroché pour les oiseaux un os de sèche. Des moineaux querelleurs sont occupés à le becqueter. « C'est là, » me dit-elle, « c'est là que j'ai passé mon enfance. » Je sais le prix des lieux. Je sais combien ils nous créent et comment ils laissent en nous des empreintes qui nous hantent comme des cicatrices. J'imagine Elena petite, accrochant un os de sèche intact au crochet du volet, et la voix de sa mère, peut-être, qui lui dit de faire attention, de ne pas se pencher, de rentrer vite et de fermer la fenêtre. Elena s'est blottie contre moi et a posé sa joue contre mon épaule. Je caresse ses cheveux, et tous deux, nous regardons les fenêtres là-haut qui, derrière le tremblement de la bruine, renferment à jamais les heures heureuses, les chagrins et les sommeils, pleins d'espérance d'une fillette qui n'est plus. Je me sens, à cet instant, pris dans un ralenti circulaire, un vertige qui me laisse troublé, comme lorsque, voyageur perdu, on ne sait plus quand apparaît enfin le carrefour, quel chemin incarne une promesse inconnue et quel autre nous renverrait vers le pays trop familier. Elena, sans que je m'en aperçoive, a desserré mon étreinte et se tient désormais face à moi. Elle me regarde et me sourit. Je ne connais pas ce sourire qui s'enfonce en moi et verse dans mon corps une chaleur épanouie, généreuse et sans limite. Nous nous regardons longuement. Elena me remplit de son sourire, de sa quiétude, du souffle qui agite sa poitrine. C'est une scène de cinéma, bien sûr. Ce ne peut être qu'une scène de cinéma, une scène qui n'existe que dans les films, et je ne sais plus soudain si je la vis ou si je la vois dans le noir rassurant d'une salle. J'attends un enfant de toi. Ai-je rêvé ce qu'Elena vient de me dire? Quelqu'un va-t-il rallumer la lumière ou me laisser un peu encore dans ce pays incertain, un instant, un tout petit instant? « Un enfant, » répète-t-elle en désignant son ventre. Est-ce la pluie qui parle ou la voix d'Elena? Les fenêtres là-haut se sont ouvertes? Ou c'est un songe, peut-être? Une fillette apparaît et nous regarde? Je voulais te le dire ici, dans mon pays d'enfance. Et Elena prend ma main gravement et la pose sur son ventre.